Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure pour parler cinéma et puis aujourd'hui on va jouer un blind test concernant la filmographie de Romain Duris. Pourquoi Romain Duris? Eh bien parce que tu as vu un film dans lequel, eh bien, il est encore une fois brillant.
Ah oui, un des multiples films qu'il est avec lui cette année, là c'est Le Règne Animal.
Et puis ton second film, eh bien, ce sera l'occasion de revenir sur un grand réalisateur.
Ah oui, moi que j'aime beaucoup, 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 c'est Woody Allen. C'est son dernier film qui s'appelle Coup de Chance.
Marine nous parlera d'un documentaire plutôt brillant qui s'intitule Je vous salue salope, mais qui est quand même sous-titré La misogynie au temps du numérique. Je vous parlerai, moi, du ravissement, mais nous allons commencer donc avec ce film de Woody Allen, encore un, et celui-ci était présenté au dernier Festival de Venise, il est maintenant sur nos écrans.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se travaille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience.
Fanny? Fanny Moreau?
Et de 50, Coup de Chance porte bien son nom, car à l'heure du cinéma consommé, hein, comme un hamburger dans un fast-food, alors cinéma et monde de l'art de manière générale, hein, affiché, bah, une telle longévité relève du miracle et n'est plus possible aujourd'hui. Alors il fallait bien, hein, les talents de solides artisans, hein, comme Clint Eastwood ou Woody Allen pour tenir la distance et arriver à surfer, bah, sur les modes éphémères, les polémiques stériles et le retard constant d'une certaine presse qui a bien du mal à suivre ses figures. Car si je parlais d'artisans dans le sens où ces cinéastes travaillent de façon continue, hein, appliquée et traditionnelle, hein, le 7e art, bah, ce mot est la définition même de ce qu'est un auteur, et ici des auteurs à part entière qui auront su se fidéliser à un public chaleureux. Tout ça pour dire que oui, une carrière aussi exceptionnelle que celle de Woody Allen est due à la chance et au nez, hein, d'avoir su surfer sur les attentes des studios et du public, et qu'il est important d'apprécier ce coup de chance en salle car il est annoncé, bah, comme étant l'ultime film de son auteur, désormais âgé de 87 ans. Sous le coup de l'émotion, hein, l'auteur de cette chronique va tenter d'être impartial tant je pense qu'il est l'un des cinéastes et scénaristes, ben, les plus brillants depuis la seconde moitié du XXe siècle et qu'une page monumentale de l'histoire du cinéma se tourne avec ce baroud d'honneur.
J'ai croisé un type que j'avais pas revu depuis le lycée. Genre, Rue l'Impact, tu m'as reconnu.
Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque.
Merci.
C'est incroyable de tomber sur toi.
Je me demande, s'il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais peut-être une vie très différente.
Pourquoi? T'as envie d'avoir une vie différente?
Je parlais de barreau d'honneur, mais en fait, ben, pas vraiment. Et c'est ça, ben, le plaisir immédiat et un peu génial de Coup de Chance. Alors Woody Allen n'en a jamais eu rien à faire, hein, des récompenses ou des distinctions, et ne s'est jamais mis en avant en se considérant comme un génie, quand bien même, ben, il l'est, hein, et est conscient d'avoir influencé un très grand nombre d'artistes. Alors Coup de Chance, hein, a donc la politesse extrême de n'être qu'un film parmi les autres de sa filmographie. Alors certes, hein, pas le meilleur, hein, ni le plus original, mais encore une fois, qui peut se vanter à 87 ans de n'avoir à rougir d'aucune de ses productions? Alors il est question, hein, de Fanny et Jean qui ont tout d'un couple heureux, beau, épanoui dans leur vie professionnelle. Ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Il faut dire que Jean fait tout, hein, pour pouponner sa femme et que même si elle ne pense pas forcément appartenir totalement à ce monde d'apparence, richesse et réputation, beaucoup lui enviraient sa position. Mais lorsque Fanny croise totalement par hasard au détour d'une rue Alain, hein, un ancien camarade de lycée, ses certitudes commencent à prendre petit à petit l'eau de toutes parts. Il faut dire qu'Alain, en plus de n'être lui non plus pas vilain, hein, semble correspondre un peu plus à son tempérament romantique et romanesque et n'hésite pas à lui confier au fur et à mesure qu'il se revoit qu'il fut amoureux d'elle lors de leur scolarité. Le charme naturel opère, il se rapproche de plus en plus et il va bien falloir, après quelques semaines de badinage, que Fanny tranche. Faut-il continuer avec Alain? Et si c'est le cas, il va bien falloir l'annoncer à Jean. Le problème, c'est que Jean est déjà au courant, car il s'est assez vite douté de quelque chose lorsqu'il a vu l'attitude et les habitudes de sa femme changer subitement et qu'il est secrètement quelqu'un qui n'aime absolument pas être doublé et donc ne recule devant aucune solution, y compris les plus extrêmes. Après tout, à une époque, ne l'a-t-on pas, hein, brièvement soupçonné d'avoir été impliqué dans la mystérieuse disparition de son associé? Les jeux sont faits.
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas pourquoi je t'appelle.
T'es avec qui au téléphone?
Comme ça?
Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pensais toi tout le temps?
Ma chérie, tu devrais être flattée d'avoir un mari qui te considère comme un trésor.
Vous êtes bien sûr de vouloir savoir la vérité? Si je suis sûr.
Coup de chance est un dernier film, mais aussi un premier de son genre pour le réalisateur. S'il a déjà tourné à Paris pour Minuit à Paris, hein, le film est intégralement tourné en français pour les besoins de celui-ci. Ce choix est justifié par l'intégralité du casting qui est français, et c'est de ce point de vue-là une très belle réussite. Ne parlant que l'anglais, hein, Allen a dirigé à l'oreille ses comédiens, et cela sert parfaitement le jeu tantôt doux et sensible de Lou Delage et Neil Schneider, ou bien plus inquiétant et dominateur de Melvin Poupeau. Si ce dernier apparaît au début comme étant un peu caricatural, c'est pour bien évidemment terriblement bien servir le virage de la comédie au thriller et maintenir le suspense entier jusqu'à la dernière minute. Alors s'il n'est pas non plus bouleversant, l'aspect inquiétant sait grandir au fur et à mesure, justement parce qu'on apprend à apprécier le personnage de Fanny et la situation dans laquelle elle s'embourbe. C'est donc un idéal champ du cygne que nous offre et s'offre Woody Allen, racé, délicat, sensible, bien huilé, très honnête et toujours divertissant. Merci Woody.
C'était pour le film Coup de chance, qui est déjà dans les salles depuis le 29 septembre. Oui, c'était un gros rattrapage. Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolence extrême et décident de se battre et de ne plus se taire. Écoutez l'excellente chronique de Marine.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Nous découvrons dans ce documentaire les destins de quatre femmes en Europe et aux États-Unis dont le point commun est d'avoir été victimes de cyberviolence extrême. Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, détient le record du plus grand nombre de messages d'insultes reçus. C'était en 2016 suite à une vidéo qu'elle avait postée sur YouTube dans laquelle elle parlait justement de harcèlement de rue en expliquant par exemple aux hommes qu'il ne fallait pas aborder les femmes dans l'espace public. Laura Boldrini, présidente du Parlement italien, a elle reçu de très nombreuses menaces de mort et de viol, un harcèlement largement encouragé par son adversaire conservateur. Kia Morris, représentante démocrate américaine et noire, a souffert de misogynie et de racisme durant l'exercice de ses fonctions. Et Laurence Graton, jeune enseignante québécoise, a été harcelée en ligne par un ancien camarade de classe qui se créait alors de fausses identités virtuelles. Autre point commun entre ces quatre femmes, elles n'ont absolument pas été aidées par la police, encore trop peu formées au cyberharcèlement, et ont dû se battre seules contre un ennemi aux multiples visages, mais parfaitement insaisissable.
Now that women are becoming more influential.
Je vous salue, salope est un documentaire difficile à regarder, plus encore si l'on est une femme, tant il analyse bien la misogynie omniprésente sur Internet et tant aussi il montre frontalement le visage du sexisme contemporain. Les commentaires les plus virulents sont cités, le documentaire est entrecoupé d'extraits de vidéos prises sur les pires chaînes YouTube masculinistes. On rappelle que selon l'ONU, 73% des utilisatrices d'Internet ont déjà vécu des cyberviolences. Les réalisatrices Léa Clermont-Dion et Guylaine Marouast ont fait 5 ans de recherche pour réaliser ce documentaire. Et en plus des victimes, elles font intervenir plusieurs expertes. En revanche, les agresseurs ne sont pas interviewés. Le cyberharcèlement a un but, celui de silencier les femmes et cette volonté de les réduire au silence. Elle a commencé il y a bien longtemps lorsque les femmes ont commencé à investir l'espace public pour prendre la parole. On retrouve des dessins satiriques très anciens tentant de ridiculiser ces femmes qui s'appropriaient alors un comportement vindicatif alors qu'il était normalement l'apanage des hommes. Par ailleurs, le cyberharcèlement à l'encontre des femmes est particulier parce que misogyne. Les hommes, quand ils sont la cible des haters et des insultes en ligne, ne sont eux pas menacés de viol comme le sont les femmes. Le documentaire rappelle également une chose importante. Non, il ne suffit pas de couper son téléphone ou d'arrêter les réseaux sociaux pour effacer le harcèlement ou pour l'oublier. Les harceleurs pratiquent également le doxing, une pratique qui consiste à rendre publiques des informations personnelles des victimes, telles que leur adresse. Le harcèlement en ligne a des répercussions sur la santé mentale et physique des victimes et il peut basculer dans la vie réelle. Jo Cox, une femme politique anglaise, a d'ailleurs été tuée après avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il en est question dans le documentaire. Et n'oublions pas également les suicides qui peuvent être la conséquence d'un harcèlement en ligne. C'est sans doute la partie la plus difficile du film, celle où l'on rencontre Glenn Canning, père d'une adolescente, Retae, qui s'est suicidée après qu'une vidéo où l'on voit deux garçons la violer et fuiter, entraînant un harcèlement massif à son encontre.
The more I deal with women in life, the more they piss me off so bad.
40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol.
Faudrait que tu fasses attention. Il va peut-être t'arriver quelque chose.
Le documentaire pointe également les béances des lois selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, la Constitution ne permet pas de poursuivre des auteurs de commentaires racistes, bien qu'ils soient constatés comme tels. Et en France, le gouvernement commence à peine à découvrir le problème, mais peine à proposer des actions concrètes et à l'échelle internationale. Les géants du numérique font preuve d'une grande lâcheté. Parmi les femmes que l'on rencontre dans ce documentaire, certaines abandonnent, comme Kia Morris, qui, harcelée par l'extrême droite, a déménagé et arrêté la politique. Certaines gagnent contre leur harceleur. Ce fut le cas de Laura Boldrini, qui, en réaction à la condamnation de son adversaire politique, a été encore plus harcelée après, d'ailleurs. Et certaines parviennent à atteindre une certaine résilience. On ne sort pas indemne de ce documentaire. On ressent un grand sentiment d'injustice et on espère simplement qu'il sera vu, qu'il sera montré, notamment au jeune public. Mais tout le monde devrait le voir, vraiment, car il démontre de façon très intelligible les mécanismes des cyberviolences misogynes et nous devrions tous nous éduquer sur le sujet. Un conseil pour aller plus loin, le documentaire hashtag salepute, diffusé sur Arte il fut un temps et peut-être encore maintenant, qui donne la parole pour le coup à des victimes de cyberharcèlement, mais uniquement françaises, à des journalistes, des féministes, des essayistes en tout genre.
Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique est en salle depuis le 4 octobre. Nous faisons maintenant une plongée avec un père et son fils dans un monde où certains humains mutent en animaux. C'est le règne animal de Thomas Caillet qu'on avait écouté, puisqu'on l'avait rencontré pour son premier film, Les Combattants.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est en très grande pompe que débarque sur une somme impressionnante d'écran le règne animal de Thomas Caillet, qui n'avait rien signé comme long métrage depuis 9 ans et la bonne réception des combattants. Alors c'est simple, à vu le battage médiatique presque digne de celui des Trois Mousquetaires, lui aussi avec Romain Duris, il semblait impossible de passer à côté. Et pourtant, il faut bien dire qu'il a là tous les ingrédients pour redouter le pire. Alors tout d'abord, la nationalité du film. Et oui, si la France a une culture phénoménale du fantastique et de la science-fiction, de Jules Verne à Métal Hurlant, en ce qui concerne son cinéma, l'histoire nous a appris à faire plus la gueule qu'autre chose. Ce qui est quand même honteux, car la culture dite de genre française a inspiré et continue à inspirer le monde entier, quand bien même des esprits bouchés continuent à penser que seuls les anglo-saxons peuvent le pratiquer. Alors quand des producteurs frileux donnent des millions aux frères Boukerma pour qu'ils annoncent qu'il est, je cite, « impossible de faire un film fantastique sérieux en France et qui continue à enchaîner des fours ineptes au box-office national », on se flagelle en pleurant et en se rappelant qu'on est quand même le seul pays à n'avoir pas adapté Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. L'autre sujet d'inquiétude profonde, c'est bien évidemment de voir ce film arriver en si grande pompe, soutenu par toute l'intelligentsia française à coups de dizaines de millions d'euros, et donc de nous interroger sur son authenticité. Car même s'il vient de la haute, ce qui étymologiquement est un contresens pour un cas comme le règne animal lorsqu'on parle de films de genre, son système habituel de production, mais aussi ses thématiques de différence et donc de subversion, le film de Thomas Caillet, estampillé auteur avec un grand A, pouvait-il être pertinent?
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance, on va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine, ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
Faut pas avoir peur.
Eh bien oui, Le règne animal est une belle réussite, même s'il est important de souligner la relativité de la pertinence de l'entreprise. Car même si le film est très fréquentable, et nous allons voir en quoi, les amateurs du genre ne sauteront pas forcément au plafond pour l'originalité de sa proposition. Car oui, en premier lieu, Le règne animal fait quand même office de dernier de la classe, tant son intrigue est archi rabâchée dans les canons du film fantastique. Le film de monstres et ses codes, cela fait quand même depuis le début de l'histoire du cinéma que d'autres nationalités les ont exploités avec brio et ont pu donner d'innombrables œuvres admirables et ce jusqu'à la récente Palme d'Or, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Cependant, rabâcher, qui n'est pas un terme très éloigné de celui de classique, rappelle justement qu'une histoire classique, même si elle reste sagement dans les limites de ce qu'on lui impose, peut délivrer à coup sûr un bon film s'il est fait avec sérieux et avec cœur. C'est donc pourquoi la beauté de la réussite du règne animal met tant à mal les propos venteux que j'ai cités des frères Boukerma. Le film a compris qu'il devait traiter son sujet avec respect et rester donc premier degré et sincère du début à la fin. Passer le cinéma de Jean-Pierre Jeunet ou surtout celui de Christophe Gans, c'est quand même un état de fait rare. Dans ce monde où les gens mutent en animaux sans explication et où un père de famille va tout faire pour essayer de comprendre puis de sauver son fils atteint de ce mal étrange, Thomas Caillé et sa co-scénariste Pauline Munier ont parfaitement compris qu'un bon film de monstre est un film métaphorique qui parle de la différence et de l'autre, et qu'un bon monstre est avant tout une figure tragique, capable de confronter l'humanité à tout ce qu'elle a de plus beau comme de plus laid lorsque l'inattendu, l'inconcevable ou l'irrationnel font irruption dans leur quotidien.
Si on t'attrape, c'est terminé, tu seras tout seul. Tu comprends ça ?
Alors le fait est qu'il n'y ait pas d'explication rend également bien plus fort cette allégorie de l'humanité, car on peut mettre ce que l'on veut derrière les mots des personnages, ce qui évite le piège d'un film à message balourd et indigeste. Appliquant la formule de George Romero à la perfection, le long métrage peut donc se permettre de passer du suspense et d'une tension extrême à une émotion forte qui perdure après la fin du générique de fin. Comme L'Exorciste, celui d'origine, réalisé par Friedkin et non pas le dernier navet en salle, Caillé et Munier ont compris que toute la force de l'histoire provenait de ce drame familial qui se joue entre une mère déjà transformée et dans la nature, un père perdu et un fils qui se cherche une identité alors qu'il est littéralement en pleine transformation. On aurait pu espérer un aspect un peu plus spectaculaire par moment et une mise en scène à la grammaire un tout petit peu plus savante, mais franchement, en l'état, Le règne animal est assurément une excellente surprise à voir sur grand écran.
Et je confirme bien tout ce que tu dis. C'était effectivement un film sur la transmission. Je trouve que c'est très très bien fait parce que c'est surtout quand même à l'écran, on voit alors effectivement ces mutants avec des effets spéciaux qui au départ ne semblent pas convaincants mais finalement le deviennent et qui sont toujours amené du point de vue de la créature. Alors ça, c'est très intéressant parce que voilà, c'est des choses qu'on voit très facilement. Mais c'est surtout donc eh bien le parcours d'un père et de son fils et effectivement la transformation d'un adolescent en quelque chose. Mais il va aussi, il a sa découverte d'adolescent à faire, c'est-à-dire ses premiers sentiments amoureux. Et puis il a aussi eh bien sa transformation à faire vers une sorte de mutation. Et on n'échappe pas effectivement à le mutant, c'est l'autre, c'est l'étranger, et ça nous renvoie à une actualité, qui est plutôt brûlante. Et les dernières séquences du film nous laissent clairement voir la position du réalisateur à ce sujet. Voilà. Le règne animal, excellent film donc de Thomas Caillé, et pour ceux qui n'auraient pas vu Les Combattants, je recommande aussi Les Combattants parce que là c'était cette fois-ci deux jeunes qui vont dans la forêt pour résister à une éventuelle fin du monde. Voilà.
Donc est-ce que le troisième film de Thomas Caillé se passera-t-il aussi majoritairement dans la forêt ? À voir.
Eh oui, c'est vrai que c'était déjà dans la forêt, oui. Le règne animal est en salle depuis le 4 octobre. Alors c'est avec Adèle Exarchopoulos. Alors, je pense qu'il aurait pu se passer d'Adèle Exarchopoulos, non pas de son personnage.
C'est un tout petit rôle, en fait.
Non pas de son personnage, mais en tout cas de l'avoir pris, même si j'ai toujours énormément de plaisir à l'avoir.
Et je m'attendais même que son personnage soit plus développé, justement, pour faire un contrepoint au personnage de Romain Duris.
Ça manque énormément. Enfin,
le dilemme moral.
Ça donne une piste, mais voilà, c'est tout. En revanche, donc, c'est un film que porte Romain Duris, qui est vraiment excellent. Et donc, ça nous donne l'occasion.
C'est un de ses meilleurs rôles, d'ailleurs.
Oui, en tout cas, un très bon rôle. Et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test sur sa filmographie.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Le principe du blind test, ce sont évidemment 5 extraits à écouter. Il faut trouver les titres. C'est parti.
Je me fous la paix.
Tu sais pourquoi je lui sers d'alibi ?
C'est parce que je suis amoureux de toi.
Casse-toi.
T'as entendu ? Je suis amoureux de toi. C'est comme ça, j'ai envie de toi. Tu n'as jamais pensé, toi, peut-être ?
À quoi ?
À ça, ce que je te dis, t'as jamais senti qu'il y avait un truc entre nous hein ?
Non.
Bon, alors c'est moi, c'est dans ma tête, j'invente.
Ouais.
C'est pas possible, putain. Quand on se voit, on n'arrive pas à se dire trois mots, on n'arrive pas à se regarder, à se toucher. On est comme des mômes. Tu trouves ça normal, toi, franchement ? J'exagère ? Sans déconner, j'exagère ou quoi ?
Bon, ça n'a pas été trouvé. Alors, t'as proposé Le Péril Jeune, Guillaume. C'est arrivé un peu après. Il a rencontré un grand réalisateur français. Il a 28 ans dans ce film. Il va sur les traces de son père qui est dans l'immobilier véreux. En revanche, lui, il a des talents de pianiste.
Ah, mais c'est découvert avec sa mère. De battre mon cœur est arrêté.
Voilà, de battre mon cœur,
oh,
c'est
oui,
arrêté.
Je l'ai vu à sa sortie, mais je ne l'ai pas revu depuis. C'est pour ça.
C'était en 2005 que tu avais pénétré dans cette salle de cinéma. Donc c'était Romain Duris et là on entendait Or Attica. Et il y avait aussi Niels Arildstrup qui a remporté l'un des 8 Césars cette année-là. 931 000 personnes ont vu ce film dans les cinémas français. Deuxième extrait.
Rappelez-moi votre nom, mon chou.
Rose Pamphile avec un Y. Je suis Saint-Frimbaud.
Qu'est-ce qui vous amène par ici, Rose Pamphile avec un Y? Saint-Frimbaud, c'est pas la porte à côté?
Jusqu'à présent, je travaillais pour mon père dans son drugstore. C'est le numéro 1 du village.
Ah, c'est important d'être numéro 1.
J'ai fait mon temps dans le commerce. Les opportunités sont rares par chez moi. Surtout quand on veut être secrétaire.
Oh, toutes les filles veulent être secrétaires. C'est la dernière mode.
Être secrétaire, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes.
Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux.
C'est chouette pour un début.
La réalité est moins chic que ce qu'on raconte dans les journaux. Tous les patrons ne vivent pas des aventures incroyables, leurs secrétaires non plus. Bon retour chez vous.
Alors c'est trouvé.
C'est populaire. Alors je ne sais plus de qui c'est, mais j'avais énormément aimé quand c'est sorti avec Nicolas Bedos en méchante crapule.
Et c'est de Régis Roinsart qu'on avait d'ailleurs entendu dans Cinérama, un film de 2012. En revanche, avec le film, nous étions en 1958. Rose, interprétée par Déborah François, qu'on vient d'entendre, veut s'éloigner de la vie qu'on lui destine et part pour Lisieux afin de se faire engager comme secrétaire pour obtenir le poste. Elle doit participer à un concours de vitesse dactylographique. 1,1 million d'entrées en France pour ce film. Troisième extrait, on cherche à trouver des titres de films de la filmographie de Romain Duris.
J'ai pas compris là, tu vas me quitter, c'est ça?
Pourquoi? Parce que tu veux qu'on arrête.
T'es dingue.
T'en as marre.
Mais t'es folle. Mais t'es là, toujours à distance. Moi je veux t'aimer, c'est toi qui veux pas. Tu fuis, tu t'échappes. Moi j'en crève de te voir pas plus.
Daniel, on se voit pas tous les jours. Et on vit pas ensemble parce qu'on a décidé que c'était mieux. Toi aussi, tu pensais que c'était mieux. Je peux pas être tout le temps avec quelqu'un. Je te l'ai dit 1000 fois.
De toute façon, on se voit jamais. Donc le problème est réglé, non?
Daniel.
Puis quoi qu'on fasse, t'as raison. De toute façon, ça revient toujours à la même chose. Les gens disparaissent. Puis c'est normal.
Alors, sans faire un cours de cinéma hein, par rapport à l'extrait précédent, on est bien dans un drame et on est bien avec le son français. pris dans la ville. Alors, essayons de. J'espère que vous avez décrypté les dialogues. Alors, c'est pas trouvé. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup, fait par un metteur en scène avant tout de théâtre, qui a fait quand même un certain nombre de films. C'est Patrice Chéreau, c'est Persécution, film de 2009. Et là, Romain Duris donnait la réplique à Charlotte Gainsbourg. Et il y avait aussi dans ce film Jean-Hugues Anglade. Romain Duris interprétait Daniel qui cherche l'amour avec Sonia, mais la relation eh bien, lui procure plus de peur que de plaisir, hein, on le voit bien. Et dans le même temps, un inconnu lui voue un culte étrange, ce qui réveille là encore des angoisses. Et après avoir assisté à l'accident brutal d'un inconnu, eh bien, Daniel va devoir se poser des questions sur lui-même et sur ce qu'il attend de la vie. Seulement 120 000 personnes l'ont vu dans les cinémas français.
Un film persécuté.
Eh oui. Mais en tout cas, ça me semblait intéressant de montrer aussi cet aspect de Romain Duris qui est capable de jouer aussi dans des films qu'il choisit avant tout. C'est parti. Quatrième extrait.
Pourquoi voulez-vous avoir des preuves?
Mais parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croie en lui?
En somme, si vous étiez absolument sûr que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante.
Évidemment.
Ça va être difficile parce que Dieu n'a pas une existence. Il est existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qu'il se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est.
C'est comme si vous disiez X égale X. Et après?
Mais après rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence.
C'est trouvé.
C'est La Confession, c'est ça?
Oui. Film de Nicolas Boukrieff de 2015, adaptation du roman Léon Morin, prêtre, qui a déjà été adapté au cinéma. Sous l'occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes. Et une jeune femme communiste et athée va tenter de défier l'abbé Léon Morin. Elle prend le risque de succomber au charme du jeune prêtre. 209 000 entrées en France. On termine ce blind test avec un extrait qu'il faut écouter dans toute la longueur. C'est au début du film. Ce film est un vrai bijou.
C'est la dernière scène du film. Si cette scène est ratée, tout le film est raté. Tu comprends?
Oui.
Voilà. Donc moi, je veux que t'aies peur. Je sais pas, invente-toi un truc, débrouille-toi. Je vois de la terreur dans tes yeux.
Oui, c'est ce que j'essayais de jouer.
Oui, tu joues. Voilà, on voit que tu joues. Mais non seulement on voit que tu joues, mais en plus, on voit que tu joues mal. Moi, je veux de la sincérité. Ok? Je veux pas de fausses larmes. Je veux des vraies larmes.
Oui, mais...
Non, mais y a pas de mais. Arrête. Tu joues comme une merde, en vrai. Et c'est normal que tu joues comme une merde, parce que ta vie entière est une merde. Tu t'intéresses qu'à des conneries toute la journée sur ton putain de portable. Moi, j'ai besoin, le film a besoin de cette putain de dernière scène et tu nous empêches de la voir parce que t'es nul. T'es archi... Qu'est-ce que t'as, connard? Tu me fais chier, ok? C'est mon film. Tu fermes ta gueule. Tu me fais chier depuis le début des répétitions. Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule de con.
Stop!
Connard!
Stop, ça suffit, là. On se calme, là, on redescend. On prend tous un quart d'heure et on se calme.
C'est peut-être bien de redescendre dans certains cas. Donc c'est trouvé.
Oui, c'est coupé de Michel Hazanavicius.
Oui, film de 2022, il avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. Mais l'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber le tournage. C'est un film vraiment, vraiment plein d'inventions. 287 000 spectateurs l'ont vu en France, mais beaucoup plus vont le voir maintenant en VOD. Ainsi s'achève donc ce blind test concernant la filmographie de Romain Duris. La vie de Lydia, sage-femme, va dérailler et s'obscurcir avec le mensonge. Nous parlons du ravissement de Iris Kaltenbach.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon amie Salomé. Je suis sage-femme.
Elle était très douce avec les mères. Ça va être bien de passer ces journées avec des bébés.
Toi, t'aimes bien les bébés?
On pose beaucoup de questions.
Vous le savez, à Cinérama, on aime défendre les premiers longs-métrages. Ravissement, celui d'Iris Kaltenbach, ne nous a pas échappé. Et comme pour Sage-Femme, dont nous avons parlé il y a peu, eh bien, nous voilà aussi placés dans des salles d'accouchement. Alors on y suit moins ceci que le personnage principal du Ravissement, Lydia, une sage-femme interprétée par Afzia Herzi. Le film débute par une scène à dimension chirurgicale pour un cœur qui s'est ouvert. Lydia apprend que son compagnon l'a trompée. Elle le met dehors. Le soir, elle fait la fête avec sa meilleure amie. Et les jours qui suivent, eh bien, on la voit sur son lieu de travail à s'occuper des accouchements. Mais on le sent bien, elle fait comme si. Et c'est tout le talent de la réalisatrice de nous montrer comment, au moyen du cinéma, avec la lumière, le cadre, le décor, le regard, cette rupture est annonciatrice d'un trouble plus grand.
Salut Mélos.
C'est ta fille.
Tu te souviens de la nuit qu'on a passée ensemble?
Tu commences ici.
Nous, spectateurs, on ne connaît à Lydia aucune autre attache que son travail et sa meilleure amie. Celle-ci lui annonce qu'elle est enceinte. Alors, comme le dit la voix off, un chauffeur de bus qu'elle a rencontré alors qu'elle s'était endormie tard dans la nuit jusqu'au terminus et qui ne nous raconte pas l'histoire par hasard, hein, les deux amis se partageaient une seule dose de bonheur pour deux. Alors, ce grand bonheur pour son amie, que signifiait-il pour elle? Au premier abord, on ne saisit pas ce qui traverse l'esprit de Lydia, mais on le distingue petit à petit à mesure que le film avance et que le temps a pris ses aises. Car l'enfant est né. 9 mois auparavant, elle aurait bien aimé que sa relation avec le chauffeur de bus dépasse une nuit, mais pas lui. On a les clés d'un drame que la réalisatrice va exposer tout en nuances. Je me garde bien d'en dire davantage. Lydia va mentir parce que ce mensonge lui assure une vie dont elle veut, mais qui n'est qu'une illusion. Elle va pousser aussi loin que possible ce mensonge. Qui, on le sait, nous, spectateurs, ne peut pas tenir.
J'ai besoin de retracer cette histoire de son point de vue. Dans l'espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia.
De son scénario, Iris Kaltenbach aurait très bien pu faire un thriller, mais il n'est pas question de ficher la frousse. L'empreinte est naturaliste. Afzia Herzi est de tous les plans, elle fait exister son personnage, elle promène tout du long une forme de tristesse, de solitude qui pourrait s'anéantir au besoin. La réalisatrice sait capter sa solitude, sa détresse, mais aussi la complexité, l'égarement d'un être qui ne saurait se dévoiler tout à fait. Le ravissement avec également Alexis Mananti, pour ceux qui l'ont oublié, c'est le teigneux flic des Misérables, et puis Nina Meurice. Et ce film est sur les écrans depuis le 11 octobre.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec des films, évidemment, Guillaume.
Oui, moi je vous parlais de À l'intérieur, un film très curieux avec Willem Dafoe.
Et moi je vous parlerai d'Une année difficile, le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache.